1 000 milliards de dollars par année, c'est ce qu'on pourrait économiser en soins de santé et sur la perte de productivité si la population mondiale optait massivement pour une alimentation végétarienne. C'est en tout cas la conclusion d'une équipe de chercheurs en santé des populations de l'Université Oxford en Grande-Bretagne. Bon, on sait tous que le végétarisme et le végétalisme sont profitables pour l'environnement, mais on avait peu ou pas, en tout cas à ma connaissance, transposé en économie réelle les bienfaits de ces modes de vie-là sur la santé. Alors, c'est une nouvelle intéressante qui arrive à un moment où on est de plus en plus nombreux à s'interroger sur nos habitudes alimentaires, surtout en Occident. Et au moment précis où l'auteur Élise Desaulniers publie un nouveau livre, Le défi vegan 21 jours. C'était donc l'occasion parfaite pour la recevoir à la balado pour qu'elle nous dise en quoi consiste l'alimentation vegan et surtout qu'elle nous donne quelques trucs pour se lancer. Aujourd'hui, à la Balado Châtelaine, on souligne l'imminente fête des mères en parlant avec une maman qui doit surmonter de gros défis, la blogueuse Julie Philippon. On décortique toutes les tendances mode beauté du printemps avec Sophie Saint-Laurent, que je vais mettre à rude épreuve aujourd'hui, vous allez voir. Annabelle Moreau nous parle d'une autre Barbie qui fait jaser sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, notre fidèle réalisateur-chroniqueur Mathieu Charlebois nous fait découvrir un autre coup de cœur musical. Mais d'abord, je suis en compagnie d'Élise Desaulniers, auteure qui lance ces jours-ci le livre « Le défi vegan 21 jours ». Bonjour Élise.
Bonjour.
Alors, bon, là on a fait, d'habitude le vendredi à Châtelaine, on a des scones, OK? Si on avait eu des scones, Annabelle, c'est un message dirigé contre toi, qui est préposé aux scones. Si on les avait eus, est-ce que tu en aurais mangé?
Ben ça dépend ce qu'il y aurait contenu. Des scones véganes, donc qui contiennent pas de beurre. J'ai jamais fait ça, des scones, je sais pas comment ça marche.
Mais mettons qu'il y a du beurre, puis des œufs.
J'en aurais pas mangé, non.
Alors, explique-nous un peu, c'est quoi les principes de base de l'alimentation végane?
Oui. Donc, c'est pas refuser les scones. C'est accessoire. C'est une personne qui est végane, c'est une personne qui refuse d'exploiter les animaux. Et concrètement, dans sa vie, au niveau de l'alimentation, elle consomme pas de viande, pas de poisson, pas de fromage, mais pas de sous-produits non plus, comme les œufs, le beurre.
Le lait
donc, aussi, c'est tout
ce qui est produit par l'animal.
Tout ce qui est produit par l'animal. L'idée, c'est pas de se couper du fun, c'est d'être cohérent. Une majorité de Canadiens, puis c'est rare que des consensus au Canada, mais on est 95% à penser que les animaux ne devraient pas souffrir. Mm-hmm. Mais si on est cohérent avec ça, on les exploite pas pour la nourriture, mm-hmm. ni pour l'alimentation, ni pour nos vêtements non oui. plus. Donc, on porte pas de cuir, on porte pas de laine, et on découvre plein d'autres façons de se nourrir, puis de s'habiller. Fait que c'est un peu ça l'idée.
C'est ça les principes vegan, de base. Ouais. Mais toi, tu fais donc une différence entre être vegan et végétalien. Moi, je vais être honnête avec mm-hmm. toi, j'ai toujours pensé que vegan, c'était un calque de l'anglais pour mm-hmm. vegan, mais que ça voulait dire absolument la même chose.
Ouais, non, il y a une distinction qu'on essaie aussi de plus en plus de mettre en place. On peut être végétalien pour plein de raisons, pour des raisons de santé. Mm-hmm. Les personnes qui ont une alimentation à base de plantes vivent plus longtemps, meilleure santé, moins de diabète de type 2, maladies cardiaques, certains
plusieurs
types de cancers aussi.
Oui, ouais. Bien sûr.
Donc ça, c'est du végétalisme. On peut aussi décider d'adopter une alimentation végétalienne pour des raisons environnementales, réduire les émissions de CO2, l'utilisation d'eau potable, de pesticides. Mais quand c'est une question qui est plus politique et plus engagée, ce refus d'exploiter les animaux, cette considération morale des animaux, le mouvement antispéciste, on en parle un peu plus parce qu'Amérique Caron vient de sortir un livre sur ce sujet-là en France. Ça, c'est le véganisme.
OK. Donc le véganisme est plus large. C'est au-delà de l'alimentation.
C'est au-delà de l'alimentation. C'est politique et ça inclut les vêtements, les tests des cosmétiques, tout ça. Donc, évidemment, pendant le défi vegan, on va pas demander aux gens de redécorer leur salon ni de changer leur garde-robe, mais on parle surtout d'alimentation, mais on va aussi en profiter pour aborder les
d'autres questions. Plus large. Ouais. Bon, d'ailleurs, parlons-en. Ton livre, toi, s'intitule « Le défi 21 jours vegan », mais c'est justement inspiré d'un défi bien réel c'est la quatrième édition, je pense, qui est lancée ces jours-ci.
C'est la quatrième édition au Québec qui est lancée ces jours-ci, le 1er mai.
Oui. Mais
des défis semblables, il y en a partout dans le monde.
Régulièrement.
Nous on s'est inspiré de celui du Physician Committee for Responsible Medicine américain. C'est un comité de médecins américains qui favorise une alimentation végétalienne. Mais il y en a en Israël, il y en a en Grande-Bretagne, il y en a vraiment, vraiment partout. C'est idée de se donner un temps d'arrêt de 21, 22 jours, un mois pour apprivoiser l'alimentation végétalienne puis s'initier aux autres questions.
Les gens qui s'inscrivent à ce défi-là, par exemple, on doit s'attendre à quoi? Qu'est-ce que ça nous permet? Il y a les réseaux sociaux pour nous donner des trucs ou comment
ouais.
ça fonctionne?
Donc, il faut vraiment le voir comme un voyage d'immersion.
Okay.
Donc, n'importe qui peut faire ce défi-là chez lui, chez elle, aux dates qu'il veut. Mais ce défi du 1er au 21 mai, c'est comme un voyage d'immersion, une espèce de gros voyage en groupe avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde où à chaque jour, on va recevoir une infolettre avec plein de trucs, plein de de conseils. Okay. On va avoir accès à plein de recettes. On a un Pinterest qui est plein de recettes. Il y a des menus qui ont été faits par une nutritionniste aussi. Et puis surtout, puis c'est souvent le plus important, un groupe sur Facebook où on peut poser ses questions, échanger, demander des conseils.
On
à
est comme
heures,
si on a du soutien
manger.
Donc dans cette
on a du soutien, on a du soutien des autres personnes qui font le défi et de gens qui sont un petit peu plus habitués comme moi puis d'autres collaboratrices. Okay.
Et qu'est-ce que mettons une omnivore comme moi pourrait tirer d'un profit d'un défi comme ça là? Ce serait quoi les avantages pour moi maintenant?
Mais je pense que l'idée qu'on veuille devenir végane à temps plein après ou simplement s'initier, c'est de découvrir des nouvelles façons de s'alimenter. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'on devrait manger moins de viande, moins de blabla.
Absolument.
Mais on ne sait pas par où commencer. On ne sait pas par où commencer, donc on va découvrir des nouvelles recettes, des nouvelles façons de s'alimenter. On va voir que l'idée, ce n'est pas juste d'enlever la viande puis le poisson de son assiette, mais de rajouter des nouvelles choses. Tu sais, il y a quoi? Il y a 10, 15, 20 recettes qu'on répète tout le temps. On aimerait que ce soit plus que ça, là, mais dans la vraie vie, soyons réalistes, comme chez quelqu'un comme Julie avec des enfants qui est débordée, ça doit être un peu toujours les mêmes recettes qui reviennent. Fait que ces recettes-là, s'il y en a une ou deux nouvelles qu'on a découvertes pendant le défi qui sont appréciées par la famille, ils vont
peut-être
venir
les intégrer
à notre répertoire. Okay. Exactement.
Je vois très bien. Et si, parce que moi, ce que j'entends souvent quand on parle de végétalisme, c'est que les gens ont souvent peur de développer des carences, beaucoup plus qu'avec juste être végétarien où on peut se réfugier dans le fromage. On sait qu'il y a des protéines dans les produits laitiers. Tu nous répondrais quoi là-dessus? Y a-t-il des trucs de base pour éviter les carences?
Ouais. Mais déjà, il faut savoir que la carence la plus fréquente en Occident, en Amérique du Nord, c'est la carence en fibres.
Et non en protéines.
Et non en protéines.
Comme on a tendance à le penser.
Et la carence en fibres, ben, les fibres, on trouve ça où? On a tendance à penser qu'on les trouve dans la viande parce que c'est fibreux.
Et dans les céréales.
Mais pas du tout. C'est dans les fruits et légumes.
Ouais.
Donc, les Nord-Américains manquent de fruits et légumes. Fait que les Nord-Américains sont carencés. Évidemment, les végétariens et végétaliens peuvent développer des carences, mais c'est moins important. Puis c'est assez facile
à éviter.
Il faut juste réfléchir un peu. Donc, si on fait juste manger des chips, c'est clair qu'on ne sera pas en super bonne santé. On peut-être être heureux une soirée ou deux.
C'est vegan, ça, des chips.
C'est vegan, il n'y a pas de problème.
OK, parfait.
Mais ce à quoi il faut faire attention, donc, ce n'est pas les protéines. On mange deux fois trop de protéines, là, tout le monde. Là. Donc, même les végétaliens et végétaliens mangent trop de protéines.
On obsède un peu avec ça.
C'est le calcium.
Comme si on allait bûcher chaque matin. Mais
comme si on allait bûcher. Même c'est rare qu'on
fait
ça.
C'est rare, oui.
Mais même quand on va bûcher, on en mange probablement trop.
Oui.
C'est le calcium. Le calcium, on le trouve dans les produits laitiers. On va le trouver aussi dans le tofu, dans les laits de soya.
Les
dérivés sont souvent enrichis. On va le trouver aussi dans les légumes verts feuillus, le kale, par exemple. Le fameux kale est une super bonne source de calcium. Et en plus, c'est une bonne source de plein d'autres nutriments, comme la vitamine K, qui est super importante. On va le trouver dans les graines de sésame, etc., etc.
Okay.
Fait qu'il faut juste le savoir.
C'est ça. Et c'est ce que ça nous permet. Un défi comme ça nous permet au moins d'avoir quelques connaissances de base pour mieux nous guider.
Oui, parce qu'on n'a pas souvent ces connaissances de base-là en nutrition.
Non.
Fait qu'on reste un peu sur le pilote automatique à manger ce qu'on mange tout le temps parce qu'on a peur de développer des carences, parce qu'on ne veut pas prendre de chance pour notre propre santé puis celle de nos enfants quand on est une maman ou un papa.
Et pour encourager les gens dans ce défi-là, parce que nous, on trouvait ça bien intéressant ici à Châtelaine, alors on a décidé de lancer aussi notre propre défi vegan auquel tu collabores.
Mm-hmm.
Ça va durer 2 semaines, donc ça débute en même temps que le défi 21 jours. Et bon, on va en profiter pour offrir justement des trucs comme ceux que tu viens nous donner, comment véganiser des recettes évidemment, mais aussi des listes de bonnes adresses parce qu'il y a des restos intéressants aussi pour manger vegan, d'être végétalien. Et on invite donc les gens à s'inscrire au 21 jours et à suivre un mot-clic pour avoir nos conseils, nos trucs, nos recettes. C'est le mot-clic Défi Vegan Châtelaine et ça va durer 2 semaines. Ça commence début mai et on a la chance d'avoir ta collaboration dans notre super défi. Donc on est bien, on se sent bien guidé. Puis bon, là,
je vous laisserai pas tomber.
J'avais mes chaussures de cuir ce matin. Sophie Saint-Laurent a choisi le défi vegan, le jour où on parle du défi vegan, pour mettre son petit top de cuir.
Mal sali avant que le défi commence.
On en profite, puis dès lundi, on oublie ça. Voilà. Merci beaucoup, Élise.
Merci.
Alors, on vient d'entendre un extrait du dernier album de Lorraine Desmarais et son Big Band. C'est ce dont nous parlera Mathieu Charlebois un petit peu plus tard dans cette chronique musique. Mais là, je dois dire que je suis très contente de découvrir qu'on arrive enfin au mois de mai, n'est-ce pas? On va enfin avoir un début de belle saison. Alors, c'est le début du mois de mai, et qui dit mois de mai dit souvent fête des mères. Pour souligner l'occasion, dans notre dernier numéro de Châtelaine, on a décidé de publier des témoignages de ce que j'appelle les mamans courage. Donc, ces mères qui ont dû surmonter des défis supplémentaires, que ce soit parce qu'elles ont vécu un traumatisme ou parce qu'elles ont un quotidien beaucoup plus aride que la moyenne des parents, je dirais. Et une de ces mamans, c'est Julie Philippon, qui est enseignante et auteure, qui est bien connue pour son blog Maman Bou, qu'elle décrit comme suit. Blog sur la conciliation travail-famille, maladie, handicap, rêve d'une maman pieuvre, drôle et créative. Bonjour Julie.
Bonjour.
Ça résume bien ta vie, ça, je pense. Hein?
C'est un peu trop long, mais c'est la réalité.
C'est ta réalité. Bon, donc, parlons un petit peu de ta réalité à toi, justement, de tes enfants et de ce que tu appelles, toi, leurs petits extras. Je trouve ça bien mignon comme façon de le présenter.
La façon de les présenter, c'est un peu délicat parce que ça va chercher les valeurs des autres. Donc, oui. ça choque des fois les mots qu'on prend. Puis je pense que ça dépend où est-ce qu'on est rendu dans les deuils, dans les étapes de
l'enfant,
notre vie.
De l'enfant avec les standards qu'on
qui n'est pas neurotypique, qu'on oui. dit, qui a un mot qui est un peu plate, je trouve, à utiliser. Alors, je suis l'heureuse maman de deux enfants. Ma grande a 11 ans, mon garçon va avoir 10 ans bientôt. Et à 9 mois, ma fille, elle a commencé à faire de l'épilepsie. Okay. Alors, ma vie de maman a changé pour devenir une maman d'enfant malade, une maman d'enfant qui a des extras, qui a des handicaps. Et à chaque année, la liste s'allonge.
Okay.
Et puis, 19 mois plus tard, j'ai eu mon garçon qui était notre champion, tout ça, mais qui a aussi ses difficultés à lui. Donc, notre vie, elle est... jamais plate.
Mais c'est ça, qu'est-ce que ça veut dire au quotidien, par exemple? Parce qu'évidemment, c'est des enfants extraordinaires, et tu le dis, qui t'inspirent tous les jours, mais reste que quand même, ça demande une implication supplémentaire. Donc, à quoi ça ressemble?
Mais des fois, ça ressemble à une semaine avec 8 rendez-vous.
Oui.
Alors, il y a comme 10 demi-journées dans une semaine. Wow. Des fois, il y a 8 rendez-vous. Pas nécessairement 7 semaines, mais ça peut être plusieurs semaines de suite. Donc, okay. ça implique que moi, j'ai la difficulté à faire mon travail d'enseignante. Parce qu'une enseignante, c'est à l'école de 7,5 à 4,5.
Tout à fait.
Puis, c'est un petit peu pour ça que j'ai commencé à écrire aussi. Parce que je me retrouvais isolée, puis je connaissais pas d'autres parents autour de moi qui avaient des enfants, qui n'avaient pas le chemin
typique.
Comme les autres enfants, puis j'étais en train de m'isoler, puis j'étais en train de déprimer pas mal.
Parce qu'il y a ton quotidien à toi comme maman, et évidemment ton conjoint comme parent, mais il y a aussi de l'intégration de ces enfants-là dans le monde réel aussi, qui est un défi supplémentaire de tous les jours, j'imagine. Aussi.
Oui, tout à fait, puis ça fait peur. À la première crise d'épilepsie, ça l'a fait peur. J'ai fait, est-ce qu'ils vont l'accepter au CPE? J'aurai pas de garderie, qu'est-ce qui va arriver? Oui. Après, dans les loisirs, à la natation, une fois, on a pris un cours, là, quand ils faisaient l'épilepsie, au début, ils ont voulu nous expulser. C'est tout invisible. Mais du moment qu'ils ne parlent pas puis qu'ils ne bougent pas, toutes les difficultés que mes enfants ont, c'est invisible. Vous avez vu les photos, ils sont beaux.
Ils sont magnifiques.
Ils sont attachants, ils ont plein de belles forces et de qualités. Mais ils ont aussi des difficultés qui font qu'ils ne peuvent pas suivre le chemin normal. Présentement, mes deux enfants sont dans des classes différentes. Ma fille en langage, mon garçon dans une classe de soutien émotif. C'est à chaque fois des étapes difficiles, parce qu'on est là à les accepter nous-mêmes, eux aussi, notre entourage. Oui. Ça implique de faire beaucoup, beaucoup de sensibilisation.
C'est ce que j'allais dire, parce que tu dois presque expliquer, justement, on est peut-être plus sensible à un handicap physique.
Oui.
Comme tu dis, c'est invisible, c'est subtil parfois, c'est comportemental. Donc, as-tu des fois l'impression aussi que tu es comme une missionnaire qui doit expliquer à chaque fois ce que c'est, la petite différence
oui,
de son
enfant?
Oui,
puis on m'a dit dernièrement, en fait, dans les dernières années, que finalement, j'étais un peu la voix de ceux qui avaient pas la voix.
Ah
autant
oui.
Mes enfants qui ont des troubles de langage, autant les parents qui n'ont pas de tribune ou qui sont
pas
à l'aise pour nommer qu'est-ce qu'ils vivent. Puis que souvent, ils partagent mes textes ou mes expériences à leur entourage. Puis ça les sensibilise, puis ça fait que, OK, je comprends un petit peu plus pourquoi que t'as manqué, pourquoi que l'autre fois t'étais fatiguée, ou c'est quoi ta vie au quotidien, ou pourquoi que tu sors plus, ou que...
Absolument. Et justement, tu parles de partager des textes parce que pour toi, ton blog, mais aussi les réseaux sociaux, t'ont vraiment aidé à surmonter cette réalité-là. T'as même publié un livre l'an dernier qui s'intitulait « Les réseaux sociaux m'ont sauvée ». Donc, ça a été vraiment...
rien de moins.
C'est donc très important dans la réalité d'une mère comme toi.
Oui. Puis, maman, mais je dirais que ça va aussi... chercher les papas. Oui. Je m'adresse plus aux mamans, c'est mon créneau, mais souvent, je prends aussi le mot papa parce que les papas aussi m'écrivent et ils me disent, ben, tu sais, tu décris mon quotidien, là. Moi, je suis juste l'autre moitié.
Absolument,
là.
Bien sûr.
Mais oui, les réseaux sociaux m'ont sauvée parce que j'étais un peu isolée, puis on manque de ressources. Quand ils ont 3 ans, nos enfants, là, puis qu'ils font pas la même chose que les autres, mais qu'il y a 2-3 ans d'attente au public, puis 1 an ou 2 au privé,
oui.
Là, on sait pas quoi faire. Puis, ben, on parle d'il y a 9 ans. Déjà, c'est les vrai, réseaux hein? étaient oui. pas... Moi, au début, j'étais pas sur Facebook. J'avais peur de Facebook. Bon, là, je suis assez présente.
Tu t'es bien rattrapée.
Je me suis rattrapée. Mais puis la dyspraxie, une des difficultés que mes enfants ont. J'ai aussi écrit un livre sur ce sujet-là. Mais c'est un sujet où il y a comme vraiment pas grand-chose. Il y a un très bon livre à Saint-Justine, mais c'est pas accessible à tous les parents. C'est pas tous les enseignants non plus qui sont capables de lire un livre de 200 pages chaque soir pour chaque difficulté de leurs élèves.
Oui.
Donc, j'ai commencé à partager mes trucs, mon quotidien, mes coups de cœur, puis ce que j'apprenais des autres parents. Puis en fait, on a un peu créé une communauté. Puis dans mon parcours, il y a eu des moments où ça a été difficile, puis j'ai rencontré un psychiatre. Mm-hmm. Parlons des tabous. Qui m'avait dit, ben Madame Philippon, c'est vraiment difficile ce que vous vivez, vous auriez besoin d'un groupe de soutien. Moi, je demeure en banlieue, il n'y en a pas de groupe de soutien. Mm. Alors, avec du recul, je me rends compte que, je l'ai un peu créé, mon groupe de soutien, puis il est alimenté par plein de monde, puis il y en a de plus en plus. Moi, je pense qu'en 2016, grâce aux réseaux sociaux, je sais qu'ils peuvent tuer. Je ne suis pas naïve à ce point-là, mais puis personne ne devrait se sentir complètement isolé parce qu'il y a quelqu'un dans le monde qui a peut-être la même maladie orpheline ou la même difficulté qui t'appartient à toi, que tu ne peux pas parler avec ton entourage, qui est peut-être trop intime ou difficile, mais que tu peux aller chercher du support.
Et dis-moi, au-delà, mettons, des réseaux sociaux qui, effectivement, ont un rôle super important dans des réalités comme ça, de quoi auraient besoin les parents, parce que tu le dis, c'est la réalité de 2 parents qui vivent ce genre de situation-là?
Reconnaissance, soutien, ouverture. Il faudrait que nos instances publiques, nos gouvernements, des deux côtés, avancent et ne reculent pas, parce que tout le monde en parle, ils ont avancé puis ils ont reculé. Il y a le mouvement de parents jusqu'au bout, bon, qui est pour des enfants qui sont lourdement handicapés, qui avancent, puis c'est beau, mais en même temps, ils ont plein d'embûches. Le soutien de Véro puis Louis pour la cause des enfants autistes, TED ou TSA, de mon amie Guylaine. Mais il n'y a pas juste ces enfants-là qui, à 21 ans, ont rien.
Oui.
Fait que ça commence. En même temps, c'est épuisant, c'est un petit peu difficile de garder le cap, mais il faut qu'on soit reconnu comme proche aidant, à la limite. Parce que si moi, je ne peux pas travailler 8 demi-journées dans ma semaine, je n'ai pas de salaire, je dois payer du stationnement, je dois payer des spécialistes, du gaz, tout ça.
Absolument.
Mais je n'ai pas de revenus.
Alors qu'on le sait que quand les enfants sont placés dans des familles et tout ça, il y a des subventions pour ça. Et c'est la dernière chose qu'on veut, surtout pour surtout qu'il y a plusieurs niveaux.
En plus, je ne comprends pas ma situation.
Non, c'est ça, bien sûr.
Qu'il y a un enfant qui est gavé aux 2 heures, qui doit respirer. Mais il faudrait qu'il y ait vraiment quelque chose, parce que dans le fond, on prend le travail d'une partie de la population. Et moi, j'ai aussi accompagné mon père qui avait la SLA, qui est décédé. J'ai fait un documentaire avec Chloé Sainte-Marie. Et dans le documentaire, il disait « Un proche aidant sur 4 meurt avant la personne aidée.
» Et c'est quand même fort comme...
Ce petit bout de phrase-là, il faudrait qu'il soit partagé. Puis en même temps, c'est pas super glam comme discours. C'est pas... tu sais, on n'est pas... on est des mamans, on est du monde ordinaire, on est... c'est ça.
Mais certainement, de plus en plus nombreux à prendre parole sur la place publique, puis il n'y en a jamais trop. Hein, comme on dit, à force d'en parler, peut-être qu'on va enfin faire bouger les choses. En tout cas, on peut lire ton témoignage plus détaillé dans le Châtelaine. Ça va se retrouver aussi sur notre site web. On peut te suivre sur ton blog Maman Bou. Et moi, je veux juste te féliciter parce que je sais que tu aides beaucoup de mamans. Et vraiment, c'est super chouette ce que tu fais. Je lis beaucoup, plusieurs de tes billets parce que ça concerne aussi tous les parents, pas seulement ceux qui ont des défis.
C'est un peu l'angle aussi. Je cherchais un peu à faire quelque chose qui rejoindrait... j'avais un projet de magazine, mais bon, qui surpose. Mais je pense que les réalités des enfants différents peuvent inspirer tout le monde.
Absolument.
Puis moi, quand je lis les histoires d'un enfant qui est en chaise roulante, là, mais les trucs des parents, leur originalité, leur créativité m'inspirent moi aussi dans ma façon de vivre au quotidien.
Tout à fait. Puis en tout cas, donc bravo pour ton travail. Puis on va continuer de te suivre. Merci, Julie.
Merci beaucoup.
Thank you. Alors, c'est le moment de la chronique « On mijote l'actu » où on vous parle de nouvelles virales et on vous propose une recette pour mieux la digérer. Annabelle Moreau, bonjour.
Bonjour, Christelle.
Tu as ta belle voix grave, particulièrement grave avec particulièrement. Ta
pharyngite. Oui, ce matin.
T'es dans, tu t'étouffes en plein milieu, je ne le prendrai pas personnel.
Non, tout va bien aller.
Annabelle, après la Barbie hipster que j'aimais bien suivre sur Instagram, il y a une autre poupée qui fait parler d'elle.
Oui, une nouvelle Barbie. Donc voilà, c'était l'automne dernier, on avait beaucoup parlé de Sociality Barbie. Mm-hmm. Elle était devenue vraiment une grande star d'Instagram en calquant vraiment de manière humoristique les habitudes et les modes de vie, en fait, des hipsters de la génération Y. Ce compte-là a été fermé en novembre dernier et on pouvait y voir avec beaucoup de plaisir. Donc, Barbie boire un latte, Barbie sur une plage entourée d'une couverture aux couleurs de la baie, Barbie qui discutait authenticité en prenant des photos dans des endroits branchés.
Avec tous les mots-clics
appropriés.
Révélateurs.
On en avait parlé dans une précédente
Merci
balado.
La vie.
Mais là, cette fois, Barbie refait surface dans une nouvelle mise en scène et c'est pour se moquer encore une fois d'un mode de vie. C'est pas celui des hipsters. Cette fois, c'est celui des volontouristes.
Ah oui.
Oui. Est-ce que vous savez, ici, autour de la table, qu'est-ce que le volontourisme?
C'est les gens qui vont aider, donc, ils profitent d'un voyage pour aller aider
humanitaire. Oui, c'est
mais
ça, voilà.
Ils ne sont pas nécessairement des coopérants.
Voilà.
Donc, c'est vraiment une forme de tourisme.
Pas vraiment.
Qui allie, en fait, c'est ça, voyage et bénévolat. On veut se rendre utile. On se rend, par exemple, dans des orphelinats au Cambodge où on va offrir ses compétences comme professeur d'anglais, alors qu'on n'a peut-être pas nécessairement la formation appropriée. C'est très populaire, bon, chez les Occidentaux qui se disent qu'ils veulent être utiles et joindre l'utile à l'agréable dans le monde. Et c'est là que le compte Barbie Savior qui... Barbie Sauveuse devient très intéressante parce qu'il y a de graves dérapages dans le monde du volontourisme. Et c'est ça, en fait,
c'est
que
ça qu'elle met l'avant.
Okay. Démontre, oui. Donc, qui est Barbie Savior? Je vais vous la résumer brièvement. Bon, c'est une jeune Américaine de 20 ans, caucasienne, et elle croit très naïvement, parce qu'elle est beaucoup naïve.
Elle s'en va sauver le monde.
Elle est un peu nunuche. Elle est très obsédée par son désir de partager son voyage sur les médias sociaux. Et elle veut répandre le bonheur et la joie dans le pays Afrique.
Ah oui,
elle part du pays Afrique.
Ah, c'est bon.
Donc, depuis le début du mois de mars, on peut suivre son périple sur Instagram, ses préparatifs avant de partir, son arrivée dans la pauvreté, ses premiers pas en sandales roses à talons hauts dans le sol rouge. Aussi, elle se fait faire un tatouage quelques jours après être arrivée sur la poitrine en forme de continent africain. C'est magnifique. Elle prend des photos avec des enfants abandonnés parce qu'elle dit « Les orphelins font les meilleures photos. Ils sont si cute. » Elle a vraiment une conviction qu'elle peut secourir les gens qu'elle croise. Elle prend un slumfie. Je ne sais pas si
c'est
vous avez déjà...
C'est quoi un slumfie?
Slum, c'est des bidonvilles.
Ah bon?
Donc, c'est le fait de se prendre devant
un bidonville.
Que c'est de bon goût.
C'est de très bon goût. Donc, c'est une suite de photos qui dénonce vraiment par l'aptitude des comportements assez approprié à discuter de certains volontouristes. J'avais peut-être envie de vous lire un seul petit
de ses
statuts. Donc, au tout début de son voyage, elle dit « Nous prenons tellement tout pour acquis en Amérique. Les lattés aux épices et à la citrouille, le yoga, les butt-hugs. Je ne verrai plus jamais mes privilèges de la même manière depuis que j'ai transporté ma propre eau aujourd'hui.
Ah, »
C'est
oui.
la triste réalité de nombreux Africains mauves. Pauvre, pardon. Elle dit, j'ai même cassé un talon et j'ai eu le cœur brisé. Mais maintenant, je comprends ce que c'est d'être meurtri pour mieux guérir.
Mais dis-moi donc, c'est qui a la brillante idée de partir ça? Qui est derrière ça?
Donc, c'est deux jeunes travailleuses humanitaires américaines qui sont dans la vingtaine, qui ont préféré conserver l'anonymat. leur but avec ce compte-là, c'est vraiment d'ouvrir la discussion sur les comportements approprié ou pas à l'étranger, car elles disent qu'il est parfois difficile de remettre à leur place ou d'expliquer les limites à des gens qui sont qui sont bien intentionnés, qui veulent aller vraiment faire une différence, mais qui savent pas où mettre un peu la limite. Donc leur message c'est plutôt qu'il faut pas ne pas aider les autres, mais plutôt comment se demander comment on peut les aider
de la bonne façon.
De la bonne façon. D'ailleurs, et je vais terminer avec ça, une des photos les plus éloquentes du conte de Barbie Savior la représente devant un tableau dans une salle de classe et on peut lire « Je n'ai pas de formation en enseignement, mais au moins, je viens d'Occident. Après tout, tout ce dont j'ai besoin d'ici, c'est d'une craie et d'une bonne dose d'optimiste. »
Ah, d'accord. Mais c'est très révélateur.
C'est très révélateur. Oui.
J'adore l'idée d'utiliser l'ironie comme ça pour...
Oui, et la Barbie à nouveau. Oui. Donc, pour mieux digérer cette nouvelle-là,
ben oui,
je vais vous proposer une recette de biscuits à la noix de coco aux pépites de chocolat.
Équitable, j'espère.
Oui. Et qui est très simple, très facile, et qu'on peut faire pour partager avec les gens qu'on aime,
ses amis.
Ça se partage
bien. On veut faire le bien autour de nous.
Voilà.
Ah, merci, Annabelle. Puis on sait, les biscuits, c'est toujours tendance. C'est un classique indémodable. Mais ce qu'on ne sait pas, par contre, c'est qu'est-ce qui est tendance ce printemps? Je veux tout savoir. Alors, je vais en parler aujourd'hui avec Sophie Saint-Laurent, notre directrice mode beauté. Et cette fois-ci, je soumets Sophie à un petit jeu. Et c'est pas une chronique habituelle. Bonjour, Sophie.
J'ai peur.
Tu as peur. Tu fais bien d'avoir peur. Alors, je t'explique le concept. Aujourd'hui, je te soumets à un grand questionnaire où tu vas avoir 3 minutes top chrono. Il y a vraiment un chronomètre pour mesurer le temps. Et je te pose plein de questions en rafale sur ce qui est tendance en mode beauté ce printemps et cet été, puis tu dois me répondre le plus rapidement possible. C'est bon? Le plus de questions possible. T'es prête?
Oui.
On attend le... C'est parti. OK, ça veut dire qu'il n'y a plus de temps. D'accord. Alors, c'est parti. Paraît qu'on peut porter son pyjama en ville cet été. Vrai ou faux?
Vrai et faux. En fait, il y a vraiment une tendance à l'esprit boudoir.
Ça, c'est vrai?
Oui, c'est ça. Alors, ça, c'est vrai. On va certainement pas emprunter tel quel à nos tenues de nuit. Par exemple, notre petit pyjama avec des oursons en polar.
Pas de ce type de pyjama.
Donc, on s'inspire vraiment de des tenues classiques masculines. Fait que là, on pense, par exemple, à la veste kimono en soie, à la Hugh Hefner.
Ouais.
On peut penser aussi à un pantalon, à une taille élastique, à un pantalon en coton, avec des rayures ou encore ma préférée, la chemise passepoilée.
Donc, c'est quoi la chemise passepoilée?
Avec un petit galon autour qui imite un peu la chemise masculine du haut de pyjama, finalement, masculin.
OK. Donc, ça peut être, mais il faut faire attention. Ça peut être tendance.
On ne sort pas avec
On sort pas avec n'importe quoi. OK. Bon, je vais ranger mes nounours en polar. OK. Quel imprimé on doit adopter ce printemps dans la garde-robe?
Alors, je n'étonnerai personne en disant les rayures.
Ouais, c'est un classique.
Classique depuis toujours. Mais si on veut faire différent cet été, je dirais les pois. Puis ça peut être des très petits pois, là, des constellations de petits pois ou des grosses pastilles. Il y en a vraiment beaucoup cette saison.
On se trompe pas avec ça. OK. Alors, si j'ai pas le temps de me faire une coiffure qui a de l'allure, je fais quoi?
Bon, c'est le fun parce que cet été, il y a vraiment des options vraiment simples pour avoir de l'allure. Okay. Moi, j'aime beaucoup le half bun, qui est vraiment la nouvelle coiffure des filles branchées qui ont beaucoup d'influence là en mode en ce moment.
Il y a des icônes en ce moment qui portent
beaucoup
ça.
Beaucoup d'icônes. Alors, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on se fait tout simplement un chignon avec la partie supérieure des cheveux.
Oui.
Puis visualisé, là, on laisse le restant des cheveux lousse. Puis on se fait un petit chignon sur le bout de la tête avec la moitié finalement de la chevelure.
Okay.
Puis vraiment, là, c'est super simple à faire. En fait, c'est beau quand c'est imparfait, donc on aime ça. Et la plupart du temps, c'est le fun pour comme le deuxième jour après notre brushing.
Oui.
Un petit peu, hein, les cheveux un peu défraîchis,
c'est une option
un petit coup de shampoing sec, on se ramasse ça sur le top de la tête, puis c'est vraiment cute. C'est cute aussi vraiment sur un bob court comme toi, Christelle, autant que sur des cheveux très longs.
Ça se peut, ça.
Frisé, vagué, peu importe, c'est beau.
OK. Il reste une minute. Il fait parfois 0, parfois 20 degrés. C'est quoi la chaussure en ce moment?
Alors, l'entre-saison, je dirais le slip-on, qui est une espèce de sneaker sans lacets, donc qu'on enfile comme une pantoufle. Puis vraiment, on peut porter avec des bas, sans bas. On peut porter avec une robe, une jupe, un pantalon, mais ça décoince aussi un tailleur. Les gens peuvent oser porter ça avec un tailleur vraiment formel. C'est vraiment cute.
Super polyvalent.
Puis en ce moment, bien, c'est ça. Avec ou sans bas, c'est parfait.
OK. Alors, si on a une seule pièce à acheter cette saison, c'est quoi?
Je vous acharne depuis un an avec ça, le pantacourt.
Ah non, je n'entends rien,
Ou si on veut faire différent, la jupe midi, mais qui est la même longueur qu'un pantacourt, donc une jupe midi appliquée accordéon.
D'accord.
Ça, c'est un must pour le printemps-été.
Bon, alors comme je suis dans le déni, je passe à l'autre question. Le manucure dans le ton?
Invisible, mais ça ne veut pas dire sans rien. En fait, on va aller dans un monochrome. Okay. On va vernir nos ongles d'un vernis opaque qui calque vraiment la couleur de la peau. Okay. Donc, comme nos peaux sont différentes, bien, en fait, on cherche le vernis qui calque à la perfection notre carnation. Et c'est ça.
Oh! Merci, Sophie! J'en avais encore. Oui, j'en avais pour plein. J'en avais encore. Mais écoute, la prochaine, c'est, je veux juste te dire, je veux savoir qu'est-ce qu'on découvrait cet été, la partie à découvrir.
Les épaules, oui, c'est vraiment beau. En fait, on peut des encolures différentes, mais aussi, ce qui est vraiment différent cet été, c'est qu'il y a des découpes stratégiques, en fait, dans des chemisiers ou des robes, puis ça permet juste de dévoiler juste une petite partie des épaules, ah, okay. C'est vraiment beau.
Ah bon, mais à retenir. Merci. On pourra toujours le mettre au complet sur la page de la balado, donc chatelaine.com/balado. Vous aurez le questionnaire. Puis là, Sophie, tu vas aller répondre aux questions qui restaient.
Oui,
d'accord?
C'est ça.
Il y en avait plein. Alors, notre homme tendance, toujours tendance, mais peut-être c'est plus en musique qu'en vêtements.
Toujours les mêmes, toujours des t-shirts, toujours des jeans.
On se trompe pas.
À un moment donné, je vais revenir à la mode.
C'est un petit look Zuckerberg.
Exactement.
Tu vas bien, Mathieu?
Ça va très bien. Je peux-tu revenir deux secondes sur le vegan dont on parlait au début?
Oui, oui.
J'ai été végétalien complet pendant 2 ans à peu près de ma vie. Maintenant, je le suis plus comme à 80 %.
Okay.
Et je le recommande à tout le monde juste parce que rapidement, on se met à cuisiner sur une mode automatique, sur un espèce de pilote automatique. Puis quand on change de diète comme ça, quand on change de mode d'alimentation, on découvre à quel point, justement, on était sur un pilote automatique, ouais. Qu'on avait arrêté de questionner ce qu'on mettait dans notre assiette, puis comment on le mettait dans notre assiette. Puis de soudainement, de voir... C'est tellement facile, un steak, du sel, du poivre, une poêle. Ce que ça avec des légumineuses, c'est avoir le repas le plus plat en ville. Mais pas des pois chiches avec du sel, du poivre dans une poêle.
Ouais.
C'est pas un repas. Donc, t'es obligé de questionner ce qu'il y a dans ton assiette. Ça fait vraiment beaucoup de bien sur toute la perspective qu'on a sur... Ben, une grosse partie de notre monde, manger, c'est une grosse partie de notre monde.
Ça revient souvent.
Puis juste à faire ce petit switch-là, puis de l'essayer une seule fois, ça change vraiment la perspective sur la vie en général. Je recommande ça à tout le monde.
Parfait. Bref. Donc, ça nous ouvre de nouveaux horizons dans l'assiette. Puis là, tu nous ouvrais de nouveaux horizons en musique.
Ben oui, je pense que c'est la première fois que je parle de jazz depuis
Pourtant, tu es un...
Ben, j'aime bien le jazz. J'ai étudié en jazz il y a vraiment longtemps, 15 ans. Et Lorraine Desmarais, qui est une pianiste québécoise virtuose qui fait carrière depuis une trentaine d'années déjà. C'est un pilier du jazz d'ici. Elle est en format big band. Cette fois-ci, elle s'entoure de 15 autres musiciens tout aussi talentueux qu'elle. C'est vraiment la crème des musiciens québécois qui est sur ce disque-là. Et son premier album en big band avait d'ailleurs gagné un Félix en 2009. Donc, ça fait 7 ans de ça. Et elle revient en format big band cette année avec un album qui s'appelle Danse, Danzas, Dances.
Ah, OK.
En 3 langues. C'est universel, hein?
C'est le jazz, hein?
C'est prêt pour être international. Et pour cet album-ci, Lorraine Desmarais a été inspirée par des cours de tango qu'elle suivait à Laval. Laval mène à tout.
Comme quoi Laval mène à tout!
Elle a d'abord écrit la pièce tango inspirée des chansons, des musiques qu'elle entendait dans son cours. Et ça dit, tant qu'elle est partie, elle a écrit 10 autres pièces aussi inspirées de styles de danse d'un peu partout dans le monde. Donc, il y a du tango, du swing, du reggae, chouette, de la samba et même un reel irlandais qui vire en espèce de truc un peu funky. C'est spécial. C'est pas ma pièce préférée de l'album, mais c'est une bonne idée. Mais là, attention, c'est un album de jazz plus que de danse.
Oui.
C'est inspiré de styles de danse, mais c'est pas particulièrement dansant. C'est un album qui donne beaucoup de place aux musiciens sur l'album. Il y a des solos qui sont très, très inspirés, mais jamais trop longs. N'ayez pas peur, là, je ne conseille pas un album où il y a des solos de 45 minutes. Mm. Vous allez comme vous mettre à penser à d'autres choses, puis demander le Big Band va revenir, vous allez faire le saut. C'est pas de ça qu'on parle. C'est des solos très inspirés, mais aussi, il n'y a jamais de longueur. Ils sont juste assez courts. Et un Big Band, c'est le fun pour sa force de frappe. Ça peut être rutilant, ça peut faire comme poing, papam, papam, mais ça peut aussi faire des couleurs derrière les solos. Donc, on sert de ces deux aspects-là. De façon très, très réussie dans les deux cas. Les albums de grand ensemble, c'est pas fréquent en jazz, surtout au Québec, parce que ça coûte cher, avoir 16 musiciens dans son studio. Donc là, on en a un bon, donc je vous recommande.
Super.
Et je propose qu'on se quitte sur la pièce Tango, celle qui a justement inspiré l'album.
Et ça, c'est une de tes préférées?
Sont toutes bonnes sur l'album. J'ai pas de préférée encore sur ce disque-là, sauf le reel que je sais que c'est pas ma préférée.
OK, d'accord. Mais... c'est par élimination, j'aime ça.
Il en reste 9 autres que j'aime beaucoup. L'album s'appelle donc Danse, Danzas, Dances, et c'est Lorraine Desmarais, Big Band.
Merci, merci Mathieu, merci à tout le monde d'avoir été avec nous pour la balado. On se laisse en musique.